This is Glenn Gould, and this program is about Leopold Stokowski.
Nouveaux Chemins vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Le génie a ses secrets impénétrables, mais aussi ses recettes. C'est dans le ventre de sa mère que Glenn Gould entend des notes de piano pour la première fois. Les mélodies d'ivoire et d'ébène vont l'accompagner jusqu'à sa naissance en 1932 et ne le quitteront plus jusqu'à sa mort en 1982. Enfant, sa mère chantonnait les airs qu'il reproduisait sur les touches, et plus tard, c'est lui qui accompagne son doigté d'un fredonnement tirant parfois vers le cri. Glenn Gould est devenu une image, adulée ou détestée, une icône à qui l'on reproche de dénaturer les compositions qu'il interprète ou que l'on félicite de ne pas opposer interprétation et création. Mais peut-on jamais interpréter sans créer du nouveau? Et à quel type de création renvoie l'interprétation musicale? Dans le cas de Gould, on a tôt fait de l'enfermer dans la folie. Lui qui, âgé d'une trentaine d'années, prend la décision de ne plus se donner en concert et de se retirer dans une cabane au bord d'un lac, afin de, je cite, « retrancher de sa vie musicale tout ce qui n'est pas cloîtré ». Folie ou génie? Mais quelle différence! Celui qui connaissait mieux que personne l'héroïsme du solitaire jouait du piano avec son esprit et son esprit lui aussi faisait ses gammes. Pour en parler avec nous ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Yves Clément. Bonjour à vous.
Bonjour.
Deux mains sur un clavier. Deux mains répètent un pas de deux raffiné. Adagio de ballet et qui évoque pour l'initié des termes bien précis. Seconde, tierce, quarte, tenue, substitution. Vocabulaire qui est celui d'un des artisanats les plus achevés peut-être, mais qui n'est encore que cela. Viennent une sonorité et une âme. Le vocabulaire s'efface, l'artisanat disparaît, et ce ballet fantôme prend son nom et devient musique.
Clément, vous êtes écrivain, éditeur, maison d'édition Le Passeur éditeur, vous organisez des festivals, vous revenez des Listomania, n'est-ce pas?
Oui, de Châteauroux.
Et voilà, donc en plus d'être spécialiste de Gould, vous l'êtes aussi de Liszt. Et votre ouvrage consacré à Glenn Gould, publié aux éditions Actes Sud, s'intitule « Le piano de l'esprit ». Et on commence cette émission avec une description des mains de Gould. Hein, c'est un extrait d'une émission diffusée sur Radio-Canada en 1960. Gould lui-même ne faisait pas vraiment de différence, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'un pianiste joue avec les mains, et c'est forcément le cas, mais lui-même disait jouer davantage avec l'esprit qu'avec les mains.
Oui, chez lui, tout est mental et cérébral, rien n'est directement mécanique. En cela, il ressemble à Liszt. C'est lui le premier qui a dit on ne joue pas avec ses doigts, mais avec son esprit. Les deux ont dit la même chose, finalement, alors que les deux sont si différents.
Mais d'ailleurs, Gould ne joue pas à Liszt, si?
Ben, il a joué quand même des transcriptions des symphonies 5, 6 de Beethoven, transcrites par Liszt, et il aspirait à la fin de sa vie à les enregistrer toutes. Comme quoi, il lui vouait quand même une certaine forme d'amour, de respect, du moins. Mais certes, il n'aime pas Liszt parce qu'il n'aime pas le roman. Il n'aime pas tout ce qui est hédoniste, précisément, trop sensuel, trop voluptueux, quelque chose qui rapporte trop précisément avec le tactile. Pour lui, la musique est affaire de mental, d'idéal. Il l'apprend, il la mémorise par cœur, pas avec ses doigts, mais vraiment avec son esprit. Et la vie de Gould, finalement, c'est pas une histoire de piano. Le piano n'est qu'un outil. La fin, c'est la quête, c'est l'extase. Et c'est l'art, et l'art lui-même n'est pas une fin. La fin, ce serait au-dessus. C'est-à-dire une espèce d'état d'émerveillement extatique, un peu comme chez Scriabine, permanent dans lequel on se réfugierait. Et d'ailleurs, il aspirait, pour aller très vite, après sa vie de pianiste, à être un temps chef d'orchestre, puis écrivain, puis presque plus rien, dans une attitude assez bouddhiste, quasiment, vous voyez.
Oui, donc, il dit, l'objectif de l'art n'est pas le déclenchement d'une sécrétion momentanée d'adrénaline, mais la construction progressive, sur la durée d'une vie entière, d'un état d'émerveillement et de sérénité.
Voilà, phrase sublime qui pourrait être chez Lao Tzu, et qui est chez un des pianistes les plus connus de l'histoire, si ce n'est le plus connu avec Liszt et Chopin, parce qu'il est bien autre chose qu'un pianiste, il est un recréateur, un recompositeur, quelqu'un qui a une vision de l'art, de la vie, un philosophe, c'est pour ça qu'on est là aussi, un penseur, un esthète à sa façon si on veut, mais le piano, encore une fois, n'est qu'un moyen. Il est né pianiste, il mourra pianiste, mais finalement, il n'a pas une attitude de pianiste. On sait pourquoi, on le dira ici, puisqu'il a abandonné la carrière de façon résolue, à l'âge de 30 ans, pour aller vers autre chose, précisément, et l'enfermement dans le studio d'enregistrement, vous parliez de sa mère, du ventre de sa mère, ce côté matriciel, rassurant, cloîtré, qui fait que c'est que dans cette situation de solitaire absolu, paradoxalement aussi, qu'on peut communiquer parfaitement avec les autres. C'est ça, Gould. C'est l'envie de pratiquer un chemin d'amour, mais qui soit pas l'amour du prochain, qui soit pas cette espèce de proximité impure du concert, mais qui se dise et qui se crée dans l'éloignement. Voilà, c'est ça.
Parce qu'il faut, voilà, on l'a dit rapidement, mais rappelons quand même la trajectoire de Gould, elle n'est pas si longue, hein, finalement, alors qu'elle est magistrale. Il entend le piano, parce que sa mère est enceinte de lui, elle lui joue du piano.
Oui.
On découvre assez rapidement qu'il a l'oreille absolue.
Oui, ça oui.
Il prend des cours de piano, il commence une carrière.
Avec sa mère, et puis un professeur assez éminent, Guerrero, qui était un grand pianiste de l'époque, qui lui apprend toutes sortes de choses ouvertes quand même sur la musique, Schoenberg, les Goldberg, tout ça, ça vient de lui. Et puis à 18 ans, il le lâche et il commence déjà sa carrière, qu'il avait même abordé vers 14-15 ans et qu'il finira à 32 ans, après avoir donné, si on se fie aux chiffres de notre ami Bruno Mont-Saint-Jean, seulement environ 300 concerts. Rendez-vous compte que cet artiste connu sur toute la planète, peut-être au-delà même d'un Mendelssohn ou d'un compositeur qui soit pas aussi connu que Mozart et Chopin, cet artiste n'a donné que 300 concerts à peine, ce qui suffirait à peine à notre ami Lang Lang pour deux années de manifestation musicale. Donc on est dans autre chose, évidemment, que dans cette histoire de carrière qui est pour lui un égarement. Le piano, d'ailleurs, est un instrument qui égare pour Gould, finalement. Donc c'est qu'un moyen, plein de paradoxes. Mais pour autant, même s'il cesse la carrière, même s'il se voue à l'enregistrement, il va donc enregistrer tous ses disques célèbres et fameux en se réfugiant dans son studio, il reste un pianiste. Et en fait, cette matrice, il la conservera aussi dans ce piano qu'il aime et déteste à la fois. Là aussi, c'est paradoxal. Mais c'est le moyen. C'est le vecteur, c'est ce qui permet de, mais c'est pas la fin. Vous savez, Franz Liszt, qu'on évoquait tous les deux, a cessé sa carrière à 36 ans pour des voies aussi plus hautes et différentes, pour se consacrer à la composition, à la charité, à la philanthropie, à l'écriture, à d'autres formes que ce métier de saltimbanque que lui condamnait bien avant Glenn Gould, de valet de chambre, disait Liszt. Donc, finalement, ils sont sur la même voie, c'est assez curieux, d'une certaine manière.
Shall we try the berater?
We're all set and rolling, so here's Bure 1, take 1.
let's try it again.
Take two.
Too crazy. Again.
Take three.
Again.
Take four.
Entend le chantonnement si caractéristique du jeu de Glenn Gould hein, derrière l'interprétation.
Oui, il n'a jamais pu s'en défaire, ça venait de sa mère qui l'a laissé faire. Donc, voilà.
Bon, et à la limite, ça n'engage pas du tout l'interprétation des partitions
non,
qu'il
non,
donne.
Hein. Ça participe de cet engagement physique finalement de Gould et son intensité qu'on entend sur chaque note.
Et intensité que l'on retrouve ici, là c'était un extrait du film Glenn Gould, The Alchemist, l'alchimiste hein, de Bruno Mont-Saint-Jean qu'on recevra ici même jeudi prochain. On entend Glenn Gould au travail, ce qui illustre bien le caractère assez laborieux et très méticuleux de chaque prise. Là, on entendait plusieurs prises. Il le fait une fois, il dit non, ça c'est it's boring, ça, ah bah. Ça. Là, on s'ennuie. Là, c'est trop beau. Il reprend, il travaille tellement qu'on se demande pourquoi finalement il affirme que le piano est secondaire pour lui, que c'est pas une fin en soi. Pourquoi tant de travail si ce n'est pas pour obtenir une forme de perfection du jeu?
C'est l'instrument parfait, mais aussi parfait dans sa neutralité. C'est le paradoxe du piano, c'est qu'il vaut tous les instruments, mais en fait, il en vaut aucun. Donc, on essaye de prendre la place d'une flûte, d'un violon, autant qu'on peut, mais en même temps, on n'a pas le timbre. Donc, et Gould appréciait cette neutralité. Et d'ailleurs, il aspirait à enregistrer principalement des œuvres de non-pianistes. Il n'aimait pas Chopin, il n'aimait pas Liszt. Finalement, il enregistre Beethoven beaucoup quand même, Brahms, mais un peu à contre-piano, on dirait, d'une façon un peu désincarnée. Bach, évidemment, puisque Bach, c'est le génie de l'indifférence instrumentale. On peut tout jouer sur n'importe quel instrument de Bach, tellement il est dans l'absolu, dans l'abstraction idéale, et c'est ça qui plaisait tant à Gould. Donc le piano, c'est un moyen idéal, mais c'est qu'un moyen. Il aimait la musique élisabéthaine, qui n'a pas été du tout conçue pour le piano, pour cause. Il aimait Schoenberg, Sibelius, mais il aimait pas Rachmaninoff. Alors il aimait Scriabine, mais pour d'autres raisons, parce qu'il est très polyphonique. Parce que le maître mot, quand même, du goût de Gould pour la musique, c'est le contrepoint. La polyphonie. Une musique ne vaut la peine que si elle est riche de voix multiples qui se croisent, s'entrecroisent, comme chez Wagner, comme chez Scriabine, comme chez Bach, le premier, mais évidemment beaucoup moins chez Liszt, chez Chopin, enfin selon Gould, mais un peu plus chez Brahms. Vous voyez, ce qui compte, c'est la richesse de la superposition des voix. C'est ça l'idéal de Gould. C'est un monde sans fin où toutes les voix comme ça correspondraient et finalement parleraient les unes dans les autres jusqu'à l'infini. C'est aussi un paradoxe, parce que finalement, c'est pas la ligne pure de la solitude qu'est la sienne.
À laquelle il tient tant, hein, l'expression « l'héroïsme du solitaire » vient de lui.
Oui, bien sûr. Chez Gould, tout est solitude. L'aspiration, c'est d'être seul. C'était un ours à qui il a manqué une oursonne, Glenn Gould, toute sa vie. Quoique, là aussi, il y a des mythes, c'est pas si simple. Mais son but, c'est la vie monacale. C'est de toute façon que dans cette solitude, qui peut communiquer. C'est le paradoxe, d'où l'enregistrement qui prend la place du concert, qui est le monde, encore une fois, de l'égarement, de l'impureté, de la pollution, et qui n'a rien à voir avec l'idéalisation, la perfection, on revient à ça, de l'enregistrement.
Mais alors voilà, il faut reprendre le fil de sa vie qu'on n'a pas fini de dérouler. Une fois qu'il renonce au concert, il va procéder à ce qui est un trésor pour la radio, à énormément d'enregistrements radiophoniques, d'émissions
aussi,
qu'il présente,
absolument,
d'interprétations qu'il enregistre,
exactement,
et qu'il se juge à partir de ses propres interprétations, de documentaires. Il passe, finalement, il nous laisse une trace extrêmement
sublime.
Voilà, c'est ça, un héritage dont on peut se
bien
servir
sûr
aujourd'hui, et c'est un bonheur de le faire entendre à la radio. C'est fait pour ça.
Absolument, c'est fait pour ça. La radio et télévision broadcast Canada, il a laissé un testament incroyable. Il a inventé, avant Jean-François Zigel, avant Leonard Bernstein, une façon de communiquer la musique par les mots et l'exemple qui est tout à fait unique et sidérante. Des émissions d'une intelligence formidable, avec en plus accompagné d'enregistrements, alors pour le coup presque en concert, si ce n'est que c'est du studio, vous voyez, c'est un compromis. Et il a, vous savez bien qu'il a essayé d'inventer en plus une forme d'enregistrement, même d'émission de radio, avec sa fameuse trilogie de la solitude, qui est tout à fait prophétique, visionnaire, et qui n'a jamais été reprise. Ces fameuses émissions de trois fois...
Dites-nous, parce que c'est pas fameux pour tout le monde.
Trois fois une heure, où il met en scène des personnages différents, qui sur la première, on va dire par exemple, l'idée de la solitude, des personnes différentes qui expriment une manière de voir chacune la solitude selon sa conception, et tout ça s'entrecroise, et les mots et la musique, de telle manière qu'à la fin, on a une espèce de magma sonore, mais qui devient une œuvre sonore, où le sens est esthétique, est sonore, et n'est plus intellectuel. Pourtant, des choses sont dites. Donc c'est une façon de construire une émission de radio qui est tout à fait neuve et qui n'a jamais été reprise d'ailleurs.
C'est ça, c'est que
ce sont des œuvres d'art.
Voilà, et la décision de se retirer de la scène du concert pour enregistrer n'est pas simplement une espèce de caprice d'un homme qui préférait être seul. Il y a une réflexion et une conception même de ce qu'est la musique ne peut être exprimée que dans un studio.
Absolument.
Qui laisse l'auditeur comme un chef d'orchestre.
Mais absolument, il anticipe de toute façon ce renoncement, cette rupture bien avant ses 32 ans et dès ses 14-15 ans, il adore l'enregistrement, on a beaucoup de bandes pirates qui traîne à droite à gauche de lui. À 18 ans, il parle de sa façon de rentrer dans un studio pour la première fois, comme s'il rentrait à l'église ou qu'il allait se marier. Pour le coup, il se marie avec le micro. Son amant, c'est le micro, Glenn Gould.
Bah, voilà. Écoutons-le en parler au micro d'Humphrey Burton.
Aujourd'hui, le mélomane est chez lui et il a à sa disposition une stéréo, certes rudimentaire, mais cela s'améliorera dans les années à venir. L'auditeur est chez lui, donc, et il prend des décisions qui auraient été prises dans le passé par le chef d'orchestre. Il choisit la balance, il prend des décisions de chef d'orchestre. Voilà. Il prend des décisions de chef d'orchestre comme cela. Du fait, il prend des décisions sur le côté droit, le côté gauche, des décisions de musicien. Il fait des choix de clarté qu'il souhaite. Est-ce qu'il veut de la basse? Est-ce qu'il veut des aigus? Encore une fois, ce sont des sons que les musiciens choisissent ou que les chefs d'orchestre choisissent en choisissant tel ou tel instrument. Voilà un bon instrument pour du Strauss ou pour du Bach, par exemple. Autrement dit, l'auditeur m'aide à prendre cette décision. L'auditeur dit, lorsque j'écoute du Bach, je vais tourner ce petit bouton-là pour les aigus, comme ça, j'aurai la clarté qu'il faut pour Bach. Lorsque j'écoute du Strauss, au contraire, je vais baisser les aigus, je vais remettre des basses pour avoir cette étendue sonore d'un Strauss. Alors, vous allez me demander, l'auditeur est-il qualifié pour prendre ces décisions? C'était votre question, n'est-ce pas? Et à mon avis, l'auditeur peut devenir qualifié, étant donné ce qu'il a à sa disposition comme enregistrement et grâce à son expérience d'auditeur. Mais en tout cas, il doit devenir qualifié. C'est son rôle, c'est son destin, c'est ça l'avenir.
De cette interprétation des maîtres chanteurs, du prélude des maîtres chanteurs de Wagner, Jean-Yves Clément, vous écrivez « Sublime dégraissage d'une page à l'exécution souvent boursouflée qui trouve une incroyable alacrité sous ses doigts. Une irrépressible énergie vitale est à l'œuvre, se régénérant en même temps qu'elle s'épuise. Chaque note semble gonflée de l'espoir qu'elle transmet à la suivante de chanter plus haut encore. Marche triomphale de celui qui s'est accaparé la matière prodigieuse de Wagner et nous la redonne sans fin. L'art de Gould est une énergie dansante. Alors on disait qu'il n'aimait pas le romantisme, que Gould n'aimait pas le romantisme, Jean-Yves Clément, et pourtant c'est une interprétation de Wagner qui est particulièrement proche, enfin qui ne rejette pas toute forme de sentimentalité.
Non, c'est une jouissance, une ivresse, une volupté permanente. Mais il se disait par moments lui-même le dernier des romantismes aussi, très paradoxal. Il aimait Richard Strauss et ses effluves romantiques, Wagner, Brahms.
Brahms, ses interprétations de Brahms sont sublimes, oui.
Ce disque des Intermezzi qui disait le plus sexy d'entre tous, vous voyez. Non, il y a ça aussi chez Gould. Non, il y a un lyrisme, il y a un épanchement qui sont extraordinaires. C'est un mythe d'avoir imaginé un Gould froid, mécanique ou je ne sais quoi. C'est une simple bêtise. C'est vraiment pas l'écouter. C'est pas parce qu'il a rendu à Bach une lisibilité, une transparence, une énergie rythmique invraisemblable dont les autres se passaient, hélas, qu'il faut en faire une espèce de compouteur ou je ne sais quoi.
Mais alors qu'est-ce que cette interprétation a de particulier?
Des maîtres chanteurs? D'abord, c'est la sienne, c'est sa transcription. Comme Liszt, il transcrivait à vue, comme ça, des opéras, des symphonies. Il a enregistré plusieurs de ses propres transcriptions, donc dont celle-ci. Elle a une énergie invraisemblable, je trouve, une affirmation de la vie, pour parler en termes nietzschéen, qu'il aimait beaucoup, Nietzsche, qu'il a lu, qui est tout à fait remarquable. Voilà, elle est dionysiaque, elle est saine dans ce qu'il y a de plus exultant, et c'est pour ça que je l'aime. C'est vrai qu'on a envie de danser quand on écoute ça, c'est pas fait pour ça, mais finalement c'est quand même et c'est bon pour Wagner, parce que lui aussi il a une mauvaise image en fait.
Et on l'entendait dans l'extrait avant évoquer le rôle de l'auditeur dans la musique.
Ah oui.
Il compare l'auditeur au chef d'orchestre qui, depuis son salon, peut équilibrer les balances de son poste pour entendre davantage les basses si c'est Strauss, davantage les aigus si c'est Bach. Il associe l'auditeur au processus de création. Oui. Ça, c'est complètement nouveau.
Oui, mais c'est son fantasme d'abord de renouer avec l'âge d'or du 18e, de chez Diderot ou d'autres, où pour lui, le créateur, l'auditeur, l'interprète étaient une même personne et pouvaient l'être et devaient l'être, comme lui était tout ça. Donc après, il imagine, puisque dans le studio, ce qu'il peut faire, Gould, c'est plusieurs conceptions très différentes d'une même œuvre. Et finalement, permettre des choses à tiroir, comme ça, à l'auditeur qui, de chez lui, écouterait, dirait « Ah ben non, tiens, pour le deuxième mouvement, je vais plutôt mettre cette version aujourd'hui, puis demain, ou ma femme choisira l'autre, ou moi-même, puis un final différent, et composer, recomposer sa version idéale du moment. Donc finalement, c'est un idéal aussi relatif et très libre. On a dit Gould, j'y ferme, enregistrer, c'est pas la vie, c'est le concert. Mais tout ça, c'est un tissu d'ânerie. C'est bien plus vivant d'avoir cette pratique que d'aller dans des concerts où tout le monde s'ennuie, où les artistes sont fatigués, ils jouent de façon un peu sale dans des conditions acoustiques souvent problématiques et laissent des interprétations éphémères, mais la plupart du temps dont on se passerait, alors que l'enregistrement permet vraiment une réflexion d'un ordre supérieur quand on le mène de cette manière-là. Mais en plus, lui, avec cette conception ouverte de l'interprétation, il a ouvert des horizons infréquentés depuis, hélas. Finalement.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire de permettre comme ça des enregistrements, des versions à la carte. Pourquoi pas, ou sur un disque, Gould nous donne encore une fois trois versions différentes de l'Allegro, deux versions différentes de l'Adagio, et on recompose soi-même sa sonate comme on l'entend. Et ça, c'est génial comme idée. Il le faisait bien d'une certaine manière, puisqu'on a plusieurs, par exemple, versions d'un certain prélude du clavier bien tempéré. On peut avoir 5-6 versions de lui. Elles sont toutes totalement différentes, plus lentes, plus rapides, parce que l'art permet ces possibilités. C'est pas une chose figée.
Ou par exemple, les deux versions des variations Goldberg que nous avons, la première enregistrée en 55. Et la seconde ensuite en 81, quelques mois avant sa mort.
Et on
y entend là pour le coup l'esprit de Gould, l'évolution. La mélancolie qui s'est instillée dans cet esprit qui en 55 était encore tout fringant et qui l'a
semblé crépusculaire. En 55, il a 20 ans et c'est comme un danseur génial comme ça qui apparaît, c'est vrai, d'une autre planète et ça va à toute vitesse, c'est tout à fait jouissif, charmeur, pianistiquement indécent, mais à rien superficiel parce que lui-même le disait, parce que un peu incohérente, c'est-à-dire les variations s'enchaînent un peu comme ça, comme elles viennent, comme on ferait précisément en concert, mais sans une pensée supérieure qui les relirait. Après, 27 ans, je crois, plus tard, en 81, peu de temps avant de mourir, et dans le film de Bruno, Mont-Saint-Jean. Et le disque, on a une version hyper contrôlée, très méditative, beaucoup plus lente par endroit, et qui a réfléchi sur cette unité supérieure qui doit relier toutes ces variations. Donc c'est une version bien plus belle, bien plus intéressante, plus profonde, mais celle de jeunesse est étourdissante, évidemment, et obscène, elle a fait le tour du monde aussitôt. C'est fou, c'est comme ça que sa carrière a été lancée. Pour une œuvre dont voulaient pas les producteurs de l'époque, mais que Gould a imposé parce qu'il l'aimait. mais il l'aime relativement. Parce qu'il lui reproche justement d'être un peu hédoniste et virtuose, ce qu'il fait dans la première version, et ce qu'il fera plus dans la dernière, où il se laissera aller à la solitude la plus émouvante qui soit, si je puis dire.
Alors, Gould n'a pas simplement interprété et enregistré, il a aussi beaucoup écrit. Et ses écrits, oui. On doit notamment à Bruno Mont-Saint-Jean de les avoir rassemblés, hein, ils sont disponibles chez Fayard.
On doit tout à Bruno Mont-Saint-Jean.
Je suis d'accord, et nous le recevons d'ailleurs jeudi pour en parler. Et ses textes sont fantastiques, parce qu'il témoigne d'une réflexivité par rapport à son travail et à lui-même, et surtout, c'était plus inattendu, d'un sens de l'humour que j'ai plaisir à donner à entendre ici. Écoutez ce texte qu'on trouve en contrepoint à la ligne. Le texte s'appelle « À bas les applaudissements » et c'est interprété par Olivier Martineau.
J'ai élaboré un projet nommé le plan Gould pour l'abolition des applaudissements et des manifestations de toute espèce. Je m'y référerai désormais sous le sigle de PGAAMTE. Il est à peine besoin de souligner que le PGAAMTE n'en est qu'à ses débuts et aura besoin, outre une campagne de promotion très active, d'une sérieuse dose de bonne volonté de la part des artistes, de l'auditoire et du management tout à la fois. La première disposition à prendre lors de l'institution du PGAAMTE sera d'organiser des concerts sans applaudissements, tous les vendredis, samedis et dimanches. Ces trois jours, grâce aux connotations liturgiques qui sont les leurs, sont les mieux à même de susciter un état d'esprit convenablement recueilli. Les concerts du reste de la semaine, du lundi au jeudi, pourraient être intitulés « événements d'excursion familiale », si je puis me permettre un emprunt à la terminologie des compagnies aériennes. Ces événements bénéficieraient de tarifs réduits et les applaudissements y seraient naturellement autorisés. On encouragerait les enfants à assister aux concerts pendant la semaine, ce qui fournirait une excellente excuse à ceux de leurs parents qui, se faisant un devoir de les y accompagner, auraient trouvé la conversion difficile. Les interprètes engagés pendant la semaine seraient exclusivement de seconde zone. Pour les concerts de prestige du week-end, le plus sérieux problème qu'aura à affronter le PGAAMTE sera la question du contenu des programmes. Il s'agira de retenir les œuvres susceptibles de contribuer au mieux à la solennité ambiante. Ma suggestion serait qu'on essaie pour commencer les oratorios à grande échelle, suivis éventuellement de séries d'œuvres composées par des membres de maisons royales. Ce n'est pas la substance qui manque à cet égard et des œuvres telles que le concerto pour piano en La de Louis-Ferdinand de Prusse ou que la cantate pastorale pour l'anniversaire de Lady Augusta de Frédéric Louis, prince de Galles, le père de Georges III, soit dit en passant, mérite que nous leur fassions une place solide dans notre vie musicale.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h28 et vous êtes en train d'écouter So You Want to Write a Fugue, une composition de Glenn Gould dont nous parlons cette semaine. Glenn Gould, le pianiste de l'esprit, en tout cas Glenn Gould ou le piano de l'esprit, c'est le titre du livre de Jean-Yves Clément, publié aux éditions Actes Sud, et Jean-Yves Clément qui est avec nous en studio pour ouvrir cette semaine.
It's just to plunge right in, then right one. So just forget the rules and just write on
my hand. The only way to write is just to plunge right in, and right one. So just forget.
Alors Jean-Yves Clément, entre le plan Gould pour l'abolition des applaudissements et des manifestations de toute espèce et cette chanson, c'en est une, hein, de So You Want to Write a Fugue, on est là dans une ambiance qui rappelle plus celle des Monty Python que l'image qu'on associe généralement à l'austérité de Gould.
Et j'adore les Monty Python autant que Shakespeare, et je les trouve aussi essentiels à la pensée, à l'intelligence humaine. Et Gould fait, oui, il y a cet humour un peu british, hein, parce que le Canada, c'était plus l'Angleterre que l'Amérique, Dieu merci, à cette époque. Et il a cet humour dans tous ses textes, qui sont aussi des textes, comme vous l'avez dit, très intelligents, très importants, qu'on développe une image de la musique et de la vie, de l'art en même temps. Mais il peut pas s'empêcher de faire de l'humour, de même qu'il cabotinait dans les studios de Radio-Canada avec des postiches, des choses comme ça, comme les Monty Python.
Il est en train d'entendre, n'écoutez pas, ne faites pas de l'esprit, ne prêtez pas attention à ce que nous vous disons, rejetez au loin tout ce qu'on vous a raconté, la théorie que vous avez lue, etc.
Mais
etc.
Là, c'est encore plus génial que le reste, parce que là, il s'agit quand même d'une vraie fugue écrite par Gould, mais avec une mise en abîme délirante, puisqu'il nous explique dans le texte comment écrire une fugue, mais en même temps, au fur et à mesure, il démolit la fugue et elle finit par s'autodétruire, un peu comme si c'était des missions finalement. Devenait un peu autre chose que ce qu'elle doit être, c'est-à-dire quelque chose de sérieux, de construit, et que finalement ça finissait n'importe comment. Et là, c'est le cas de cette musique, mais qui reste pour autant très bien construite, très bien écrite, et merveilleusement intelligente et inspirée en plus.
So never be clever for the sake of being clever, for the sake of
Alors dans les textes de Gould, on trouve des perles qui permettent de comprendre son approche du piano, et j'aimerais qu'on revienne un instant sur l'expression qui est la vôtre, hein, le piano de l'esprit. Il faut insister sur le procédé grâce auquel Gould interprète et donc compose, puisque pour lui, oui, il essaie de faire de l'interprétation au lieu d'une création, d'une composition. Il y a cette forme d'image mentale qu'il a en tête avant de composer, c'est-à-dire qu'il va se représenter mentalement le résultat que ses doigts ensuite vont devoir produire à l'aide de l'exécution des gammes, enfin de la mélodie elle-même.
Oui, comme on n'aspire pas à un art hédoniste, un art matérialiste, qu'on aspire qu'à de l'esprit, ben finalement on mentalise les choses. Et le piano, il faut s'en écarter le plus possible. C'est le projet de Gould, sachant qu'évidemment c'est une espèce de génie qui fait qu'il n'a pas de problème vraiment technique, et que dès qu'il se met sur un piano, que tout a été mémorisé, tout vient un peu naturellement, sans beaucoup de travail. Alors ça, c'est inouï, c'est un don surnaturel pour se permettre cette chose-là. Mais sinon, les très grands, vous savez, aujourd'hui, Barenboim, hier Liszt, ont cette façon d'appréhender la musique, c'est-à-dire de façon purement visuelle, en la mémorisant, en la lisant comme nous, on lit un livre ou un poème, en l'ingérant comme ça, et après simplement, l'instrument arrive, mais c'est secondaire. Et comme ça, on évite cet hédonisme tactile qui est pour...
Pourquoi dites-vous
qui est
hédonisme?
Pour Gould et proche de Lucifer. Parce que la musique doit être un art pur. Pour Gould, pas un art de la satisfaction, du divertissement, quelque chose de complaisant comme on le trouvera en concert, qui est fait pour séduire, comme dirait le premier rang ou des choses comme ça. On vise encore une fois à une quête supérieure à toutes ces histoires-là. D'où l'enregistrement qui permet de pas être pollué par cette fréquentation. Gould lui-même disait que le fait de jouer en concert lui donnait des tics, des mauvaises habitudes, parce qu'il était influencé par la présence des gens. C'est de ça dont il faut se débarrasser, non pas des gens, au contraire, puisque cette pratique d'enregistrement permet de se rapprocher à distance d'eux au mieux. C'est ça sa leçon d'amour à lui. C'est pas la promiscuité, le réchauffement rassurant les uns contre les autres. C'est faisons chacun notre travail et communiquons. Alors évidemment, vous me direz, c'est un petit peu autiste, ça veut dire qu'il a un problème avec...
Non mais c'est plus sur la conception idéaliste de la musique, puisque l'interprétation naît d'abord dans son esprit, on est dans une vision idéaliste de la musique. C'est d'abord une idée, une image, avant d'être une réalisation. Et c'est en ce sens que les doigts seraient complètement secondaires. Et pourtant, vous l'avez dit vous-même quand on a commenté l'interprétation des maîtres chanteurs de Wagner, il y a une sensualité dans son interprétation également. Donc ça veut dire quoi ?
C'est extraordinaire.
Tout émane de son esprit, ou est-ce que les doigts, malgré lui apportent une
ça
forme de sensualité dont il essaie de se défaire ?
C'est un être paradoxal comme nous tous. Moi, je pense que la vérité est d'ordre paradoxal aussi, et que dès qu'il se met au piano, finalement, évidemment que c'est plus fort que lui et qu'il s'incarne, enfin, heureusement. Il aspire à quelque chose de désincarné, mais il est heureusement incarné quand il nous joue ce qu'on a entendu, ou Brahms, ce qu'on va écouter, des choses inouïes de cet ordre-là, où il se trahit à travers un lyrisme, pour le coup, très romantique, très débridé, quasi décadent d'ailleurs, ou sexy, comme il le disait lui-même. Mais c'est ça, Gould, c'est les deux. Voilà.
On sait quels sont les trois grands mots cérémonieux de l'idéal ascétique. Pauvreté, humilité, chasteté. Et qu'on regarde de près désormais la vie de tous les grands esprits féconds et inventifs, on les y trouvera toujours tous les trois à un certain degré. Pas le moins du monde comme si elles constituent en quelque sorte leurs vertus, qu'importe les vertus pour cette espèce d'homme, mais comme les conditions les plus propres et les plus naturelles de leur existence dans ce qu'elle a de meilleur, de leur fécondité dans ce qu'elle a de plus beau. À cet égard, il est fort possible que leur spiritualité dominante ait dû commencer par serrer la bride à un orgueil effréné et irritable, ou à une sensualité malicieuse, ou qu'elle ait eu peut-être un certain mal à maintenir sa volonté de désert, contre un penchant au luxe et au suprêmement recherché, ou de même contre une libéralité prodigue du cœur et de la main. Mais ce désert dont je viens de parler, où se retirent et s'isolent les esprits de constitution forte, indépendante, il arrive en effet que ce soit eux qui le constituent, ces hommes cultivés. Une obscurité délibérée peut-être, un mouvement portant à s'éviter soi-même, une crainte du vacarme, de la vénération, des journaux, de l'influence, un emploi modeste, un train-train quotidien, quelque chose qui cache plutôt qu'il n'éclaire, à l'occasion un commerce avec des animaux et des volatiles inoffensifs, gais dont la vue délasse. Pour compagnie, une montagne, mais pas une montagne morte, une montagne qui ait des yeux, c'est-à-dire des lacs. Le cas échéant, même une chambre remplie de gens ordinaires, où l'on soit sûr d'être pris pour ce que l'on n'est pas, et où l'on puisse impunément parler à tout le monde. C'est cela, ici, le désert. Oh, il est bien assez solitaire, croyez-moi. Ce texte de Nietzsche, qu'on trouve au paragraphe 8 de la troisième partie de la généalogie de la morale, hein, que signifient les idéaux ascétiques, semble avoir été écrit pour Gould.
C'est vraiment, c'est sublime. En plus, c'est pas parce que j'aime Nietzsche, mais ce texte est particulièrement réussi, et stylistiquement, et c'est parfaitement Glenn Gould, oui.
C'est cette recherche de l'idéal ascétique, qui n'est pas une vertu, mais une forme de nécessité.
Oui.
Le goût pour les animaux, et Gould disait lui-même qu'il a compris très vite qu'il préférait la compagnie des animaux à celle des hommes.
Oui, on le voit diriger une symphonie de malheur devant des éléphants, d'ailleurs sur YouTube, dans un zoo, c'est assez éclairant.
Et ce désert, cette solitude qui ne peut vraiment se vivre
que oui. dans le désert.
C'est ça.
Et le désert qui n'est pas compatible avec une forme d'aridité, mais au contraire, qui semble Bien accueillir sûr. Le lyrisme dont vous parliez, Bien l'émotion sûr. Que nous sommes en train d'écouter dans cette interprétation.
Mais tous les sages disent de la même chose. Cette quête de la béatitude ne veut pas dire sécheresse du tout. Le lyrisme, c'est le chant final, si je puis dire. C'est ça, c'est cette quête, mais quand même divine, même malgré Nietzsche, si je puis dire. Il y a quelque chose, mais chez Nietzsche aussi, hein, il y a du paradoxe et du divin caché, on dirait du mysticisme aussi, peut-être. Et ça n'empêche pas le lyrisme, non, ce qu'on entend, c'est une débauche invraisemblable. Jouer Brahms comme ça, personne ne l'ose aujourd'hui. Et on dit ça du soi-disant du plus sec des pianistes, oui. Oui, il y a un goût chez lui du renoncement, de l'ascétisme, bien sûr. Il allait, vous le disiez, dans sa cabane au bord du lac, là, à côté de Toronto. C'est sa quête, c'est son idéal. Et il avait un chien bien aimé. Il voulait finir d'ailleurs sur une île, dans un refuge pour animaux vieux ou malades, et s'occuper d'eux. C'était sincère, hein. Alors bon, tout ça trouve ses limites, hein. On en est certain, vous et moi. Il s'agit d'aimer les hommes avant les animaux, quand même.
Je sais pas.
Moi, je sais.
J'ai pas de jugement à cet égard.
Moi, je sais.
Mais cette interprétation de l'intermezzo ici en si bémol mineur. De Brahms. Là, pour le coup, on a... Enfin, le spécialiste de Gould que vous êtes me dira si je me trompe, mais on a une tonalité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les interprétations.
Oui, elle va aussi avec cet amour du crépuscule, du nord.
Encore un terme Nietzsche, d'ailleurs.
Oui. Enfin, c'est Nietzsche, il voulait qu'on aille vers le sud, que Gould, il voulait qu'on aille vers le nord, mais finalement, les extrêmes se rejoignent, peut-être, dans la même quête. Oui, il y a ce goût et cette lumière mordorée, comme ça, et le dernier Brahms va avec cet esprit de Gengoult, qu'il trouve aussi chez Schoenberg, chez Richard Strauss, c'est les lumières finissantes, Siegfried Idyll, Wagner, qui l'a transcrit aussi, toutes ces musiques qu'on dirait aussi des décadentes, qui expriment une fin de siècle, une fin de monde, qu'on trouve chez Strauss, aussi chez Ravel, des changements de civilisation qui se traduisent par des timbres et des lumières, et chez Brahms, évidemment, on y est à plein.
Et des changements de civilisation qui l'intéressent d'autant plus quand il écrit oui. sur les compositeurs de la Renaissance, il dit les interprètes avaient une vision de compositeur à la Renaissance. Voilà. Et notamment lorsqu'il parle de Bach qu'il a amené au piano, dit-il, il dit qu'il y avait une espèce d'âge de la raison très particulier chez Bach. Quelque chose que nous aurions perdu. Le crépuscule, c'est aussi celui d'une certaine approche de la composition de la musique.
Ce qu'on a perdu, c'est ce qu'on a séparé, en fait. Justement, l'interprète, le compositeur, l'auditeur, cet âge d'or, c'est dans la division que commence la décadence. C'est le déclin. Il faut descendre de sa montagne et se couper de quelque chose. Mais en même temps, c'est inévitable. Il faut ça pour reconstruire. Mais Gould est un grand, finalement, nostalgique, on pourrait dire, en fait, en écoutant cette musique de Brahms. Romantique et nostalgique, comme les Brahms. Nostalgique de quoi ? Nostalgie, est-ce que c'est pas autant une maladie qu'un idéal ? C'est bien possible. Mais j'entends cette mélancolie, quoi, profonde. Bon, et dans cette musique et cette interprétation, dans laquelle Gould, finalement, se vautre, si j'ose dire, littéralement. Donc c'est étonnant, mais finalement, se couper des hommes, c'est se faire attraper à un moment ou à un autre. Parce que après, il y a des moments où il les faut, les hommes, et pas seulement dans le cloître, la solitude. Moi, les nuits de mon amour pour Gould, se manifeste là. Il faut aller dans le monde, dans la vie. Sinon, on en meurt étouffé, d'une façon ou d'une autre, dans son piano, dans sa chambre, dans son hôtel. Il est mort à 50 ans. C'est pas une réussite. Il a fait un AVC,
enfin,
il a sombré.
C'est pas une réussite. La mort n'est jamais une réussite en soi.
C'est pas un exemple de vie bien heureuse et longue et épanouie. On parlait de Francis en début d'émission. On pourrait finir aussi comme ça. Chez Liszt, il y a un amour, un appétit de la vie, une ouverture vers les autres et l'humanité qui l'ont fait durer. Si j'ose dire, l'enfermement. Moi, on parle de philosophie. Pour moi, l'enfermement ne nous fait pas durer. Il nous fait mourir sur nous-mêmes, il nous assèche. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir comment Gould s'est abîmé physiquement en vieillissant.
Mais c'est délibéré et assumé chez lui. Hein.
Oui, l'autodestruction inconsciente est toujours délibérée.
Il écrit ceci, il dit « Pour moi, toute musique qui échoue à isoler les auditeurs du monde dans lequel ils vivent est intrinsèquement d'une valeur moindre
qu'une musique qui peut atteindre.
Oui, mais
ce n'est
pas les valeurs qui nous font vivre. Des déclarations comme ça portent leur perte en même temps. C'est aussi quand même un peu suicidaire, autodestructeur. Et ces dernières années étaient assez tristes, et physiquement et psychiquement. Et entre le jeune homme séduisant, alerte, qu'on voit dans la première version des Goldberg, et cette espèce de, je veux dire, avec double guillemets, de primate qu'on voit dans le film de Bruno Mont-Saint-Jean, avec ses grosses lunettes, et mais mon Dieu, quelle, en 25 ans, quelle chute quand même. Alors pour une élévation dans l'art, dans l'esprit, mais est-ce qu'on doit se sacrifier comme ça? Est-ce qu'on peut pas faire autrement? La question se pose. Il y a quand même, mais il y a beaucoup de pathologies là-dedans. Hein,
puis on va pas... Pour lui, ce sacrifice est très clair quand même. Hein, parce qu'il dit aussi que tout artiste créateur qui entend produire une œuvre digne d'intérêt ne peut faire autrement que d'être un être social relativement médiocre.
D'accord, mais enfin à la fin, il était quand même malheureux, il en souffrait, il était hypochondriaque comme personne, il est mort dans le délabrement tout seul alors qu'il avait mis les un projet. Donc faut savoir ce qu'on veut. Durer ou pas durer, c'est pareil, donc c'est là, voilà.
Mais elle
là,
dure peut-être bien davantage grâce aux enregistrements que s'il avait vécu heureux
et plus
longtemps.
Je pense pas qu'il y ait de fatalité dans tout ça, on parlait de l'histoire. On peut faire peut-être les deux à la fois, ce serait ça l'idéal. Trouver un équilibre pour être, voilà, un équilibre. Là, c'est trop, quelque part, voilà.
C'est peut-être le prix du génie.
Pas sûr.
C'est pas le cas de liste, ça, ce
pas,
que vous dites.
Voilà, c'est pas une fatalité, pas une obligation. Et Bach, alors, des gens équilibrés, il y en a qui sont aussi chronogéniques que les autres. Voilà, mais j'adore Gould, mais que je dis ça quand même.
C'est sur l'air de la première variation Goldberg, de la dernière interprétation proposée par Glenn Gould en 1980 que nous quittons, Jean-Yves Clément. Un grand merci à vous d'être venu nous parler.
C'est moi qui vous remercie.
De cet interprète créateur qu'est Glenn Gould. Et oui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Glenn Gould ou le piano de l'esprit, disponible aux Actes Sud, aux éditions Actes Sud. Et pour paraphraser Guitry, les silences qui suivent les interprétations de Glenn Gould sont encore de Glenn Gould. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h48. Encore deux minutes, papillon, il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre de philo qui vient de paraître, et aujourd'hui...
Là, c'est L'épreuve de la haine, c'est un essai de Marc Crépon sur le refus de la violence qui est paru aux éditions Odile Jacob.
La marche se déroule extraordinairement bien. C'est certainement une des plus grandes réussites de notre nation. Je dirais même que c'est l'expérience la plus importante que j'ai jamais eue dans ma vie. C'est un magnifique témoignage de la puissance de la foule qui participe à la marche, et cela m'apparaît comme la réelle expression de la conscience de notre nation à propos des droits civiques.
Est-ce que vous attendez à des incidents? Do you expect any trouble on the way to
Montgomery? Well, we certainly hope.
Nous espérons qu'il n'y aura pas d'incident, et je puis vous assurer qu'il n'y en aura pas de notre fait. Nous sommes résolument pour la non-violence.
En mars 1965, trois grandes marches eurent lieu aux États-Unis, les marches de Selma à Montgomery, pour protester pacifiquement pour les droits civiques. Seule la dernière, pourtant, est parvenue avec succès à Montgomery. La première avait alors été marquée par le Bloody Sunday, ou la répression violente des manifestants par les forces de police. Bizarrement, c'est comme si répondre à la violence par la non-violence ne désarmait pas réellement, mais contribuait en fait à son envers. Mais pourquoi la violence appelle-t-elle nécessairement la violence? Pourquoi, dès qu'elle est enclenchée, la violence ne cesse-t-elle pas de se reproduire, de se répéter, de se propager? Et bien, dans son essai sur le refus de la violence, L'épreuve de la haine, Marc Crépon éclaire cette causalité du même, à l'œuvre dans la violence. La violence semble à la fois être l'élément déclencheur du mal et de la haine, et on pense la solution au mal et à cette haine. Faut-il alors y consentir, ou du moins s'y résigner? Jaurès, Gandhi ou encore Martin Luther King auraient-ils été naïfs à refuser la violence? Et même eux d'ailleurs, où puissent-ils leurs ressources pour faire face à cette violence? À travers le portrait que Marc Crépon fait entre autres de ces figures de la non-violence, il désarticule en fait ce que l'on croit nécessaire dans celle-ci, à savoir lui opposer les mêmes moyens. Et c'est avec sa conviction intime, dit-il, qu'il convoque ainsi ces grandes voies de la non-violence. C'est peut-être dans ce terme d'ailleurs de conviction que se trouve alors le remède au poison. Si la violence nous désarme intimement et en appelle à se réarmer, la ressource vient alors peut-être d'assumer ce désarmement pour y trouver la force.
Et donc cet essai sur le refus de la violence, c'est écrit par Marc Crépon.
Marc Crépon, philosophe, spécialiste de philosophie politique, s'appelle L'épreuve de la haine et c'est paru aux éditions Odile Jacob.
Merci Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve mercredi. Car demain, auditeurs chanceux, réjouissez-vous en lieu et place des nouveaux chemins. Vous pourrez écouter la messe en direct. Alors pour vous consoler, pensez à ce que Gould dit des qualités et des vertus de l'enregistrement. Hein, vous verrez dans quelle mesure finalement assister à la messe de l'autre côté du poste et peut-être une bonne chose. Nous, on se retrouve mercredi donc pour la suite de cette série d'émissions consacrée à Glenn Gould. Ce sera le philosophe André Hirt qui viendra vous en parler. Un grand merci à Pierre Brossard pour le travail de préparation pour cette émission. Travail faramineux, vous pouvez l'imaginer. Merci à toute l'équipe des Nouveaux Chemins. Antoine Ravon, Marianne Chassor, Ariane Mintz, Géraldine Mosna-Savoie, bien sûr. Olivier Bétard à la prise de son aujourd'hui. Lucas Fournier à la... Lucas Vaillant, à la prise de son de Olivier Bétard, à la réalisation, j'en perds mon français. Vous écoutez France Culture, il va être bientôt 10h52. À 11h, vous retrouverez Florian Delorme pour Culture Monde. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre feuilleton quotidien, La vie moderne.